Les informations, Lucios Torero.
Un cas de grippe aviaire a été détecté dans la région. La colonie des cygnes à Bienne s'était préparée à cette situation. Plus de détails dans cette édition. En début de semaine, le biennois Simon Niklaus a été emporté par une avalanche lors de son ascension dans l'Himalaya. À quelques mètres de l'arrivée, il a chuté et s'est retrouvé sous la neige. Sain et sauf, il nous raconte son histoire. La Tissot Arena a un nouveau terrain et cette fois, il est synthétique. Les joueurs du FC Bienne se réjouissent déjà de fouler ce nouveau revêtement. Côté ciel, ce soir et cette nuit, il sera changeant avec quelques passages nuageux et des brouillards. Ce week-end, le temps sera sec avec toujours des grisailles par endroits. Il fera minimum 3 et maximum 8 degrés. La colonie des cygnes à Bienne déclenche son plan pour éviter la propagation de la grippe aviaire. L'établissement se trouve dans le secteur instauré par la Confédération pour contenir la transmission du virus. Car mercredi, une oie morte contaminée a été retrouvée à Vinelts. Et hier, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire des affaires vétérinaires a décidé de créer des régions d'observation. Ces dernières s'étendent sur une bande large de 3 km autour des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. Le canton de Berne a demandé ce matin aux propriétaires de déclencher des mesures spécifiques. Sandra Riverendo, membre de la fondation de la colonie des cygnes.
C'est aussi l'État qui nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, on doit avoir ce concept. Nous, on était prêts pour ça parce qu'on a déjà vu tous les cas en Allemagne concernant la grippe aviaire. Alors, on a déjà tout préparé. La seule chose qu'on doit encore faire, c'est de bien regarder avec les personnes qui travaillent ici pour mettre toutes les mesures à partir d'aujourd'hui en ordre qu'ils savent ce qu'ils doivent faire à partir de maintenant pour éviter une transmission.
La colonie des cygnes était toutefois prête à faire face à cette situation qui s'est déjà présentée en début de l'année. On retrouve Sandra Rivendo.
Les mesures, on les a déjà eues en janvier. Et puis là, on a fait tout un concept, comment on peut éviter de transmettre la grippe aviaire sur nos oiseaux. Et chez nous, c'est surtout de changer les vêtements et aussi les chaussures avant d'entrer dans nos volières où on a les oiseaux domestiques.
Donc vous êtes un peu maintenant entré dans une phase de crise, entre guillemets, ou bien ?
Non, c'est pas une phase de crise. Nous, on a un petit peu l'habitude avec ça. Il y a chaque année, on a des mesures concernant la grippe aviaire. Alors nous, on sait exactement ce qu'on peut faire pour éviter une transmission.
Sandra Riverendo précise que la colonie des cygnes n'a jamais détecté de cas de grippe aviaire. Elle ajoute que ce plan de protection devrait rester en vigueur jusqu'à fin mars 2026, mais l'évolution du nombre de cas pourrait faire varier ce calendrier. Aujourd'hui s'ouvre le comptoir de Tramelan. La 19e édition se déroule jusqu'à dimanche. L'objectif est de mettre en avant le savoir-faire des artisans et commerçants de la région. Jonathan Marquis est le président de promotion Tramelan. Il nous détaille le programme pour ce week-end.
On a une trentaine d'exposants. La chance qu'on a, c'est qu'on a des exposants variés. On parle de la quincaillerie, par des paysagistes, des garagistes, du monde de l'artisanat. Il y a des boissons, il y a un restaurant aussi qui va faire à manger durant tout le week-end, qui est de Tramelan. Donc chaque année, on essaye de changer aussi le restaurant pour un petit peu varier les menus. Et on a des animations le soir.
Cette année, le comptoir de Tramelan est en même temps que Moutier Expo. Comment est-ce que ça se fait et pourquoi est-ce que c'est les mêmes dates ?
Alors, il y a eu une erreur de communication entre l'ancien comité et le nouveau comité du comptoir et la commune. Ce qui fait que la salle était déjà réservée les autres dates. Et du coup, on a dû malheureusement cette année faire en même temps que l'expo de Moutier. Du coup, après, on a réagi avec la commune pour réserver sur les prochaines années un autre week-end pour pouvoir être décalé et ne pas faire l'expo en même temps que l'expo de Moutier.
L'aventure himalayenne a failli mal se terminer pour Simon Niklaus. Le biennois est parti fin septembre au Népal pour gravir l'Annapurna. Suite à ce premier échec, il s'était finalement tourné vers le Cholatse, un pic plus bas mais plus technique. À 10 mètres de l'arrivée, le sol se dérobe sous ses pieds. Le biennois se fait emporter par une avalanche. Il fait une chute d'environ 300 mètres. Il nous raconte.
On a littéralement dévalé toute la pente. Les trois premières secondes, j'étais sur le dessus de la neige. Ça, j'étais le dernier de la cordée. Et après trois secondes, j'étais dans la neige. Ce qui est assez impressionnant, c'est que j'étais très lucide pendant la chute. C'est-à-dire que la première pensée, ça a été « Non, je ne veux pas partir comme ça, je ne suis pas prêt ». La deuxième pensée, ça a été « Il faut que quand on s'arrête, ma tête soit à la surface ». Pendant la chute, j'ai rebondi vraiment comme un pantin, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, une fois sur le côté. Et je m'attendais, en fait, je serrais les dents et je m'attendais à ce qu'à chaque impact, j'entende mes os craquer et il n'en est rien. Et jusqu'à ce que tout d'un coup, je m'arrête immobile et j'essaie de bouger ma tête en me disant « Est-ce que je suis à la surface ?» Et je n'arrivais pas à bouger la tête et je me suis dit « Mince ». Et en fait, c'était ça, la pire des pensées, c'était que pendant les 20 secondes de chute à peu près, c'était la peur en fait de me dire « Je sais qu'on a 15 minutes pour se lever sous une avalanche, mais si on est les 5 sous la neige, personne ne va venir nous chercher là-haut ».
Simon et Klaus se retrouvent immobilisés sous une lourde couche de neige. Il arrive à dégager une arrivée d'air jusqu'à sa tête, puis un guide le tire finalement hors de son étau glacial. Là, c'est la délivrance. Le Biennois se rend compte que tous ses coéquipiers sont sains et saufs. Désormais, tiré d'affaire à Katmandou, Simon et Klaus nous détaillent comment il se sent.
Chanceux, parce que rien que dans ma cordée, je suis un de ceux qui a été le moins blessé. Mon Sherpa, il a eu, je crois, 3 vertèbres légèrement fissurées ou disloquées. J'ai pas le diagnostic exact. Jorge, qui est un alpiniste de renommée mondiale, il a déjà gravi les 14 000 sans oxygène. Lui, s'est cassé le pied. Et il a du coup réussi à marcher quand même 3 heures jusqu'au camp de base avec un pied cassé, quoi. Je pense que l'état de choc est gentiment passé maintenant. Ça fait 4 jours, mais les premiers jours étaient difficiles.
Un dossier de Manon Becker. La Saint-Martin va faire briller la région ces prochains jours et pas seulement le Jura. Dans le Valais aussi, on peut manger le menu complet. C'est le restaurant du Foyer à Sierre qui propose les 9 plats ce dimanche à une 60aine de clients. Aux manettes de l'établissement, un jurassien expatrié, Julien Brendley, a vécu toute son enfance à Courtetel dans la boucherie du village. Autant dire que la cochonaille de la Saint-Martin n'a pas de secret pour lui, Julien Brendley.
Oh, c'est un rapport que j'ai depuis tout petit. Mon père avait une boucherie à Courtetel, donc on a baigné dans le menu de Saint-Martin assez tôt, avec l'odeur de boudin, les gelées de ménage. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire les gelées de ménage. Je les décorais avec elle quand j'étais petit. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN.
Julien Brendley, est-ce que menu de Saint-Martin, ça rime avec Jura ?
Alors, le menu de Saint-Martin rime avec Jura, mais c'est quelque chose qui peut s'exporter. Nous, comme on a quand même des racines jurassiennes, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le proposer en dehors des frontières d'Ajoie. Ouais, c'est aussi une fête en cuisine, quoi.
Julien Brendley, gérant et chef de cuisine du restaurant du Foyer à Sierre, répondait à Nancy Chapuis. Contrairement à la SSR qui a fait le saut du tout numérique en fin 2024, les radios régionales privées du pays demandent une prolongation de la diffusion en FM au-delà de fin 2026. Le Conseil des États est appelé à approuver cette requête en décembre. Au vu du vote en commission, le suspense est entier. L'éclairage de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
La requête des radios privées de conserver la FM jusqu'en 2031 a été acceptée largement par le Conseil national en septembre, 131 voix contre 40 et 19 abstentions. Ça s'annonce autrement plus serré et indécis au Conseil des États. Sa commission des télécommunications en a débattu et le vote est le suivant. 5 sénateurs sont pour la prolongation de la FM, 4 contre, 2 abstentions et 2 absents. Bien malin qui peut se risquer à une extrapolation au plénum du Conseil des États, se doutant que le vote en commission ne répond pas aux habituels découpages partisans. La courte majorité, favorable à la prolongation de 5 ans de la FM, craint une diminution du nombre d'auditeurs des radios régionales au profit de radios étrangères qui utiliseraient toujours la FM. La pérennité de stations régionales est en jeu. La grosse minorité rappelle que c'est la branche de la radio elle-même qui a décidé de passer au DAB+. Prolonger la FM, ça a un coût jugé inutile puisque le passage au numérique est inéluctable. Donnez juste un peu de temps, rétorque la majorité.
L'AFM sera au programme de la session d'hiver du Conseil d'État en décembre.
RJB, il est 18h10.
RJB, sport.
Le FC Bienne retrouve la Tissot Arena. Les travaux pour changer la pelouse du terrain de football sont terminés. Les premiers matchs se tiendront ce week-end sur le nouveau gazon synthétique célandais. Le FC Bienne accueillera les moins de 21 ans de Lausanne dimanche à 15h. Il disputera son premier match de Promotion League de la saison dans son antre après avoir joué ses matchs à domicile à Grange. La formation célandaise a découvert son nouveau terrain cette semaine. Le capitaine du FC Bienne, Anthony de Freitas, se réjouit de jouer sur cette nouvelle pelouse.
Ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas joué sur notre terrain. Bon, ce sera aussi nouveau pour nous puisque c'est une nouvelle pelouse synthétique. Après, voilà, c'est important pour nous et on l'a vu aussi sur nos résultats que tous ces déplacements, ils ont été aussi assez compliqués. Mais je pense que si on fait le bilan, on a plutôt pas mal avec une nouvelle équipe. On a pas mal négocié tous ces matchs. On est vraiment très content pour le club, pour la ville, pour tout le monde et même pour les nouveaux joueurs de pouvoir accéder de nouveau à notre terrain.
Et cette nouvelle pelouse, justement, parlez-nous-en un petit peu. Vous avez déjà eu l'occasion de la tâter un peu, on imagine.
On a fait nos petits débats, donc on pense que ça va être vraiment bien. Elle a l'air d'être vraiment de bonne qualité avec un nouveau synthétique. Franchement, on est content et on est pressé d'aller dessus, quoi.
Justement, le changement entre gazon et synthétique, ça va forcément demander des adaptations aussi également pour vous qui évoluez pourtant à domicile.
Oui, bien sûr. Après, maintenant, ça se fait beaucoup, les synthétiques. Hein. C'est pas non plus quelque chose de très très nouveau. On s'entraînait même les dernières semaines un peu plus sur le synthétique. On a fait pas mal de déplacements sur le synthétique. Donc oui, ça va demander un petit peu d'adaptation. Je pense là même avec les nouvelles générations, on est plus ou moins habitués.
Anthony de Freitas répondait à Michel Léoni. Le FC Bienne retrouvera la Tissot Arena dimanche à 15h contre les moins de 21 ans de Lausanne. L'équipe de Suisse sera privée de Calvin Turkau ce week-end lors de l'Euro Hockey Tour. L'attaquant de Lugano s'est blessé au haut du corps hier lors de la victoire contre la Finlande. La formation de Patrick Fischer affrontera la Suède demain et la République tchèque dimanche. Louis Matt ne sera plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. Le club de Swiss League a annoncé aujourd'hui que le contrat du Québécois ne sera pas prolongé. Louis Matt était arrivé à La Chaux-de-Fonds en 2022. Il a mené les Abeilles à 2 titres de champion de Swiss League et à une victoire en Coupe de Suisse la saison dernière. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 18h30. Belle suite de soirée. RJB Sport.